Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que ces trois problèmes existent dans d'autres pays européens et ne sont pas réglés. Ça, c'est le problème des pays et des modèles économiques ou financiers qui sont insoutenables. Et par ailleurs, la réponse ou les réponses qui ont été mises en place par les Européens sont des réponses qui sont à la fois tardives, partielles. Donc c'est pour ça que cette logique de domino, elle va continuer à jouer. C'est que d'un côté, on a des doutes persistants sur la liquidité et la solvabilité d'un certain nombre de pays. Et d'autre part, on a également des doutes persistants sur la capacité de l'Europe à appliquer effectivement les décisions qui ont été prises.
C'est-à-dire qu'il fallait faire plus vite ou peut-être qu'il fallait faire autrement ?
Je pense que plus vite, certainement, sur la rigueur effective et assumée dans un certain nombre de pays pour maîtriser les dettes. Mais surtout, il fallait faire autrement, c'est-à-dire qu'il faut à la fois beaucoup mieux coordonner l'Union et puis les États. Il faut également mieux coordonner les actions budgétaires et les actions monétaires. Et puis, il faut changer un certain nombre des principes de l'eurozone dont on voit qu'ils ne fonctionnent pas. Je rappelle qu'au départ, dans le traité de Maastricht, l'idée même qu'un pays européen puisse faire défaut était une hypothèse qu'on se refusait à envisager. Et donc, toutes ces règles n'existent pas. Il faut maintenant avoir un système cohérent qui permette d'utiliser les différents instruments de manière coordonnée et qui permette aussi d'articuler d'une manière extrêmement ferme l'action de l'Union et l'action des États.
Est-ce que le spectre d'un possible éclatement de la zone euro est une possibilité que vous-même, spécialiste, envisagez ?
C'est une hypothèse qu'on ne peut pas écarter. Je pense que l'euro survivra de toute manière. Ce qui est vrai, c'est que le règlement des problèmes de dette publique est quand même très préoccupant pour des pays qui ont aujourd'hui 130% de dette publique et autres. Et ça suppose des efforts de la population qui sont extrêmes. L'autre problème, c'est que l'austérité budgétaire ne peut pas aller en même temps qu'une politique monétaire restrictive, ce qui est le cas de la Banque Centrale Européenne aujourd'hui, et une monnaie surévaluée. Cette monnaie surévaluée, elle est difficile pour des pays comme la France, elle est insupportable pour des pays comme la Grèce ou le Portugal.
Est-ce que cette situation qui perdure doit nous amener à repenser finalement l'économie comme on la pratique aujourd'hui ?
Sûrement, puisque une grande crise comme celle que nous traversons, la grande crise de la mondialisation, elle redistribue les cartes en matière de production, en matière de régulation, en matière de redistribution, de répartition des richesses. Ce qui est vrai, c'est que pour l'instant, le choc les redistribue à l'avantage des pays émergents, ce qui d'ailleurs est une très bonne chose, puisque c'est un progrès économique et social majeur que de voir un milliard de gens sortir de la pauvreté. C'est ce qui s'est passé depuis les années 90. Et de voir par ailleurs se rééquilibrer des modèles économiques dans les pays émergents avec moins d'égalité, plus d'équilibre, plus de protection de l'environnement. Ce qui est vrai, c'est que pour les pays développés, les pays riches, c'est un choc très important et un choc qui peut entraîner le déclassement de parties importantes de la population. Donc c'est ça qu'il faut essayer de freiner. Je crois en revanche que toutes les stratégies fondées sur la décroissance ou des politiques malthusiennes sont extrêmement dangereuses parce que ça ne fera qu'accroître la pauvreté et accroître non seulement les tensions économiques et sociales, mais les tensions politiques.